L'homme que je reçois cet après-midi est un monomaniaque d'un genre particulier puisque son truc à lui, c'est donc la méiose, une étape clé du cycle de la vie des organismes se reproduisant sexuellement. Et avec lui, nous allons plonger au cœur de la cellule, là où se trouve le siège de l'hérédité. Son nom est Raphaël Mercier. Il vient de recevoir le laurier du défi scientifique de l'INRA pour ses découvertes sur des gènes impliqués dans la méiose et qui ont eu un grand retentissement dans le domaine végétal. À ses côtés, la biologiste du développement Marie-Hélène Verlac, qui va nous parler du mécanisme de la division cellulaire. Ils sont avec nous dans un instant et j'attends toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Agnès Fer, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, c'est la nouvelle loi sur le don d'organes qui nous intéresse pour essayer de comprendre quels changements en attendre.
Oui, en France, environ une famille sur trois refuse le prélèvement d'organes au moment du décès d'un proche. Et depuis le 1er janvier, ce refus est censé être plus encadré. Alors cette mesure peut-elle permettre de mieux répondre aux besoins de greffe? On en parle avec France Roussin, coordinatrice de prélèvement.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy qui s'intéresse cette semaine à un métier étonnant, celui de plieur de papier toilette. C'est tout à fait sérieux. Et c'est Stéphanie Texier qui réalise cette nouvelle Tête au Carré préparée par Chantal de Montagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Avec donc dans quelques minutes un dossier consacré à ce mécanisme universel en biologie, la méiose. Et je salue mes invités qui vont nous éclairer sur ce sujet, Raphaël Mercier et Marie-Hélène Verlac. Bonjour à
Bonjour.
Tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Raphaël Mercier, vous vous décrivez vous-même comme monomaniaque de la méiose. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans ce mécanisme ?
Bon, la méiose est d'abord un mécanisme essentiel à la reproduction, c'est le cœur de l'hérédité. Et les chromosomes bougent, se mélangent et se distribuent au cours de cette division. C'est vraiment un mécanisme fascinant à regarder et à décortiquer.
Oui, donc c'est cette danse qui vous plaît, visiblement. C'est ça. On va en parler donc avec vous, Marie-Hélène Verlac. La méiose, on peut l'étudier chez le végétal, c'est ce qu'on va voir justement avec Raphaël Mercier, mais évidemment chez l'animal. C'est la souris, vous, qui vous intéresse en particulier ?
La souris, parce que c'est un très bon modèle génétique, mais quand on étudie la souris, on s'intéresse aussi à l'homme, bien évidemment. Mmh. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement aux ovocytes, en fait. La méiose dans les ovocytes, dans les gamètes femelles.
Ouais.
Que je trouve très intéressante parce que c'est une cellule qui subit des divisions extrêmement asymétriques par la taille des cellules engendrées. Et, donc voilà.
Et c'est la symétrie qui fait tout, hein, justement.
C'est la symétrie qui fait tout.
C'est ce qu'on va voir avec vous dans quelques minutes. On va découvrir donc le rôle essentiel de la méiose. On va parler de division cellulaire. C'est un rôle important pour la reproduction sexuée. Et puis les auditeurs nous rejoignent avec les questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et donc le don d'organes à la une de la science aujourd'hui, puisque depuis le 1er janvier, les Français peuvent déclarer sur un registre national leur refus d'être prélevés peu après leur décès. Une mesure, vous allez le comprendre, qui vise à mieux répondre aux besoins de greffe alors que les personnes sur liste d'attente augmentent chaque année.
Votre fils Simon a eu un grave accident de la route.
Mais je comprends rien.
Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes.
Extrait du film « Réparer les vivants ». France Roussin, c'est un peu vous finalement, cette personne qui, au moment du décès, aborde avec la famille ou les proches la question délicate du don d'organes. C'est exactement ce que vous pouvez avoir comme propos avec eux ?
C'est exactement ça en fait.
Oui.
Exactement le rôle de Thomas dans ce film « Réparer les vivants ».
Et vous êtes coordinatrice de prélèvement d'organes et de tissus au sein du groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière. Agnès, la première question pour France Roussin.
Qu'est-ce qui change concrètement avec cette nouvelle loi ?
Alors clairement, cette nouvelle loi vient renforcer le principe de consentement présumé qui existe en France finalement depuis 1976. Et clairement, au terme de la loi en France, c'est qui ne dit mot consent, donc on est tous considérés comme des donneurs potentiels.
C'est ça, ouais.
Si on ne s'y est pas opposé clairement de son vivant. Et donc ce registre national des refus permet à tout citoyen, s'il est opposé au don d'organes, de s'inscrire sur ce registre. Mmh. Ce registre, il faut savoir qu'il existe depuis 1998, mais là, la loi... L'amendement de août 2016 vient renforcer ce principe de consentement et informe vraiment le public sur le fait qu'il faut s'inscrire quand on est opposé au don d'organes.
Et donc si le défunt n'a pas déclaré son refus d'être prélevé, il devient donc un donneur potentiel, donc il l'était déjà depuis 1976 en principe. Mais là, ce que ça signifie, c'est que la famille ne pourra plus s'opposer à un prélèvement ?
Alors, l'entretien avec la famille aura lieu de la même façon qu'en 2017, qu'en 2016 et que dans toutes les années qui viennent de passer. Ce qu'il est important, c'est que la population se positionne et clairement, ce qu'on recherche auprès des proches, c'est l'opposition du défunt. On ne cherche pas à savoir si la famille est pour ou contre. Ce qu'on cherche essentiellement à recueillir auprès des proches de la personne décédée, c'est l'opposition du défunt au don d'organes. Donc vraiment, notre discours est vraiment axé et tourne autour du refus du patient.
Oui, ce qui paraît d'ailleurs assez étonnant, parce qu'on pourrait s'intéresser plutôt au consentement, hein, faire que les choses soient plus simples. Et là, la loi, justement, précise les choses autour du refus.
Oui, parce que il y a un registre en France, c'est un refus du non, registre du refus. Et en France, il n'y a pas de registre du oui. Alors, il y a une carte de donneur qui est un bon élément pour engager une discussion au cours de ces discussions qui sont qu'on entame après l'annonce du décès. Mmh.
C'est un document que beaucoup d'auditeurs possèdent d'ailleurs. Hein,
la carte de donneur.
Cette carte de donneur.
On la prend, on la remplit,
elle
on la met dans son portefeuille.
Elle fait foi réellement.
Alors elle
n'a
pas de valeur légale, mais pour nous c'est vraiment un bon élément pour entamer la discussion avec les proches.
Ah oui, alors certain. Ça c'est étonnant parce qu'effectivement en préparant le dossier avec Agnès, on s'est aperçu qu'effectivement elle n'avait pas de valeur légale.
Exactement.
Cette carte de donneur. Ça c'est
exactement.
Étonnant quand même.
En fait c'est un peu le principe de qui ne dit mot consent. Si on ne s'y est pas opposé, c'est qu'on est d'accord, quoi. Mais c'est vrai que cette carte de donneur, pour nous, est vraiment très importante quand les rares fois, on la trouve, donc les familles nous la donnent, en fait.
Mais du coup, on ne comprend pas bien qu'est-ce que cette loi va changer. Est-ce que vraiment, ça va permettre d'augmenter le nombre de greffes?
Je pense que c'est important, surtout très important d'en parler, de communiquer autour de ce sujet, et que les gens, clairement, puissent s'exprimer. Et s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils aillent jusqu'au bout de cette démarche et qu'ils s'inscrivent sur ce registre, quoi. Alors, ce qui va être un peu différent aussi, c'est que à partir d'hier, finalement, à partir du 1er janvier, les proches vont devoir écrire et signer sur un papier les circonstances dans lesquelles la personne se serait opposée, mais ne se serait pas inscrite sur ce fameux registre.
Donc, il faut le justifier, en fait.
Il faut le justifier,
c'est
exactement.
C'est un peu plus contraignant.
Voilà.
Ouais. Quels sont les arguments qu'on vous oppose, que vous entendez de la part de ses proches d'un patient décédé qui refuse le prélèvement d'organes? Pourquoi c'est si...
Alors d'abord, je pense que c'est très difficile de la part d'une famille de prendre position pour un des proches. Si on ne sait pas, dans le doute, on préfère toujours un peu s'abstenir, quoi. Ça, c'est une des premières choses. Et puis, il y a aussi le problème de mutilation et d'atteinte à l'intégrité du corps. Sachant que le don d'organes, c'est une intervention chirurgicale qui est faite dans un bloc opératoire avec des chirurgiens extrêmement compétents. Donc, c'est quelqu'un qui va être opéré, mais aucunement mutilé.
Bien sûr. Vous avez beaucoup de refus, d'ailleurs, sur vos demandes ou pas ?
Il y a entre 30-33% sur l'ensemble du territoire, et sur Paris et région parisienne, on est plus autour des 40 ou 45% de refus.
Comment on l'explique ?
On l'explique pour justement ce problème de quand on ne s'est pas positionné, les familles préfèrent refuser parce qu'ils ne connaissent pas bien la position du défunt. Mmh. Et puis comme je vous le disais, ce problème d'intégrité du corps, c'est toujours un peu compliqué de se positionner quand la personne n'en a pas parlé, quoi.
Et tout ça tandis que le nombre de personnes sur liste d'attente d'une greffe, quant à lui, a tendance à augmenter chaque année, c'est ça ?
Le nombre de personnes inscrites sur les listes d'attente ne cesse d'augmenter puisqu'on est, je crois, à plus de 20 000 personnes qui attendent un organe aujourd'hui en France. Et en gros, il y a 500 personnes qui meurent chaque année faute de greffon.
Oui. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ces personnes qui craignent de voir leurs proches peut-être charcutés ou bien qui invoquent aussi l'argument religieux? C'est quelque chose que vous entendez aussi, je crois. Hein.
Charcuté, Agnès prononce ce mot parce que je crois qu'il revient très souvent, ce que vous entendez de la part des familles.
C'est un terme que les familles ou les proches ont tendance à reprendre assez fréquemment, alors qu'il y a vraiment énormément de respect autour de cette intervention. C'est quelqu'un qui va être opéré, comme on est opéré quand on est vivant. Ça fera une cicatrice sur le ventre, sur l'abdomen, et rien de plus. Une fois que l'intervention chirurgicale est terminée, les proches peuvent se recueillir et gérer les obsèques comme ils le souhaitent, en fait. Ça ne change absolument rien.
Vous, votre travail, c'est vraiment d'essayer de convaincre les familles quand il n'y a pas de refus.
C'est pas d'essayer de convaincre, c'est d'essayer de se rapprocher, d'être la plus proche des volontés du défunt, et surtout de s'assurer que le défunt n'y était pas opposé. S'il n'y est pas opposé, on peut se dire qu'il aurait été consentant à donner ses organes pour sauver des personnes qui sont sur ces listes d'attente.
Et à ce moment-là, c'est à vous de convaincre la famille qui peut
être
s'y opposer.
C'est nous d'engendrer un discours qui soit cohérent, avec le plus grand respect, bien entendu, puisqu'on est quand même face à une famille qui est endeuillée. Donc je pense que c'est quand même ça qu'il ne faut à aucun moment perdre de vue, en fait.
Alors, on sait que, par exemple, en Allemagne ou aux États-Unis, la position d'un individu peut figurer sur le permis de conduire. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé voir figurer dans cette nouvelle loi? Qu'est-ce que vous auriez pu attendre, vous, d'ailleurs, d'une loi pour favoriser.
Alors le sur le permis de conduire, c'est vrai que c'est très confortable parce que du coup, ça permet aux personnes de se positionner et que au moment justement où on va annoncer ce décès qui est un décès souvent inattendu ou un peu tragique.
Vous y avez déjà été confronté ça, des patients justement allemands ou américains?
Oui, alors il y a parfois des touristes qui hélas passent en France et puis qui décèdent pour une raison X ou Y. Et donc les discours avec ces familles touristes en France, c'est vrai que ça a été assez simple puisqu'ils nous ont sorti le permis de conduire. C'était marqué sur le permis de conduire, donc finalement ça a été très très simple. La discussion a été vraiment très très simple. Alors maintenant, on pourrait se dire, ça pourrait être inscrit aussi sur une carte vitale, sur une pièce d'identité, sur un permis de conduire. Oui, je pense que ce serait un plus.
Il y a une culture du don, on peut le dire comme ça, selon les pays justement, une approche qui est très différente.
Il y a une culture du don, je pense que c'est important d'en parler, c'est important de banaliser cette intervention, puisque au final, ça se fait avec le plus grand respect et que, quelque part, c'est la vie qui continue, quoi.
Qu'est-ce que vous répondez lorsqu'on invoque l'argument religieux aussi ?
Clairement, il n'y a aucune religion qui interdit le don d'organes. Je pense que la vie prime sur tout et que le principal, c'est de sauver des vies et que la vie continue.
Donc depuis le 1er janvier, tous les Français sont considérés comme donneurs d'organes présumés, sauf déclaration contraire. Hein, voilà. Merci beaucoup France Roussin, c'est important de faire un éclairage sur cet aspect évidemment essentiel et qui peut là aussi sauver des vies, on l'a bien compris, et qui permettra peut-être aussi d'améliorer le dialogue, en tout cas parfois lorsqu'il est difficile.
C'est très important d'en parler.
Merci à vous d'être venu à la Une de la Science et Agnès, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, ramollir les tumeurs pour favoriser le traitement du cancer. C'est ce qu'a expérimenté sur des souris une équipe du CNRS, de l'INSERM de Paris 7 et Paris 8. Habituellement, lorsqu'une tumeur se rigidifie par l'action des cellules cancéreuses, il y a plus de chances de voir des métastases se développer et les traitements se diffusent moins bien. Et afin de ramollir justement la tumeur sur ces patients, eh bien des chercheurs ont procédé par nano-hyperthermie, c'était sur la souris. Ils ont chauffé les cellules cancéreuses en introduisant dans la tumeur des nanotubes de carbone. Ce traitement, qui pourrait être associé à une chimiothérapie, fait l'objet d'une publication dans la revue Theranostic. Le télescope spatial Hubble observe un méga-maser, phénomène analogue au laser qui émet de la lumière. Un maser émet lui des micro-ondes, sauf qu'ici Hubble a observé un maser extrêmement puissant, plus de 100 millions de fois plus brillant que ceux de la Voie lactée. Ce méga-maser est composé de deux noyaux de galaxies tournant l'un autour de l'autre au sein d'un gigantesque tourbillon de gaz. Heureusement, ce phénomène est très éloigné, quelques 370 millions d'années-lumière de la Terre, car le méga-maser est au moins 1000 fois plus lumineux que le Soleil. Et puis les dinosaures couvaient leurs œufs plus longtemps qu'on ne le pensait. Longtemps, les paléontologues ont cru que cette période de couvaison était similaire à celle des oiseaux, de l'ordre de quelques dizaines de jours. Mais une étude publiée dans la revue PNAS révèle que la durée d'incubation de certains dinosaures pouvait durer jusqu'à 6 mois, un temps long qui a pu peser d'ailleurs dans leur disparition. Une longue couvaison impliquant une reproduction lente, soit un gros désavantage en termes de survie lorsque, par exemple, un astéroïde frappe la planète comme il y a 65 millions d'années. Allez, on va découvrir quelque chose ensemble certainement cet après-midi. La méiose, c'est le dossier. Yeah. Oh yeah. Travis Scott, Tucker, babe.
I need all this cash, I got hella keys. I'ma play dumb and get left in the middle. Bad to fuck up, you too little. Hit him with three like a miller. I don't talk to no man in the middle. I don't talk to no man, I'm just kidding. But I did pay my sister tuition. I feel like I should play the lottery. Walking out with it like son and listen. Mama told me I'm her brightest star. Mama told me don't hate on the law. Because everybody got a job. Because everybody won't be a star.
Real shit, real shit.
Please believe every motherfucker around here won't be a part. She gon' do anything in her power to be with your boss.
Pick up the phone, baby.
Up in Mertu, hitting the block, it don't bleed it. Throwing that rollie on you, I like the way you be breathing.
Pick up the phone, Young Thug, à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Le dossier de cet après-midi va peut-être rappeler des souvenirs à d'anciens élèves de terminale en SVT. Nous nous intéressons en effet à la méiose, un mécanisme universel. La méiose, donc mécanisme qui permet de brasser, de distribuer les chromosomes dans les cellules reproductrices. Et pour en parler, Raphaël Mercier et Marie-Hélène Verlac sont avec nous. Alors si on vous invite, c'est d'abord parce que Raphaël Mercier, vous avez reçu un laurier défi scientifique le 13 décembre dernier, des mains de Axel Kahn. C'était à l'occasion donc de cette cérémonie de l'INRA. Vous êtes généticien, directeur de recherche à Versailles-Grignan, donc au sein de l'INRA, et responsable d'une équipe qui s'appelle Méiose et Recombinaison. Vous allez nous expliquer ce que vous fabriquez bien dans cette équipe. Marie-Hélène Verlac, de votre côté, c'est la biologie du développement qui vous intéresse. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Autre équipe pour vous, celle que vous dirigez, c'est la division asymétrique ovocytaire. Et on va en savoir plus également dans un instant avec vous. Vous êtes au sein du centre interdisciplinaire de recherche en biologie. Les auditeurs curieux de méiose nous rejoignent déjà avec les messages et les questions donc sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Raphaël Mercier, un mot d'abord sur votre parcours, parce que vous avez été récompensé justement pour vos recherches. La génétique, c'est votre domaine, donc la méiose, votre spécialité. On parlait tout à l'heure de cet aspect monomaniaque que vous revendiquez. Vous parlez vous-même d'un coup de foudre pour ce mécanisme particulier. Pourquoi alors exactement est-ce que ça vous passionne autant, ça?
Moi, je suis un généticien. Et la méiose, c'est le cœur de la génétique. Et donc, ce que je fais, c'est la génétique de la génétique.
Ouais.
Donc, on peut pas rêver mieux pour un généticien.
Oui, c'est vrai. Absolument. Vous allez très, très loin. Et alors, qu'est-ce qu'on étudie en particulier?
Alors, on étudie les mécanismes, comment ces chromosomes se distribuent lors de la méiose pour créer le patrimoine génétique des descendants. Alors, reprenons.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que cette méiose? Alors, Mathieu Vidard, comme nos éditeurs, vous avez dans vos cellules deux chromosomes 1, deux chromosomes 2, etc., jusqu'à 22 chez l'homme plus X et Y. Et, Si vous avez reçu un chromosome de votre père et un chromosome de votre mère, et si vous faites des enfants, et bien vous transmettez un chromosome 1, un seul, pas deux, parce que votre partenaire va transmettre l'autre chromosome 1. Donc il faut qu'à un moment, on réduise ce nombre de chromosomes. Ça, c'est le premier rôle de la méiose, transmettre un seul chromosome 1 et un seul chromosome 2, un seul chromosome 3, etc., pour que le nouvel enfant ait le bon nombre de chromosomes. Et puis, vous transmettez pas bêtement un chromosome 1, enfin, un des deux chromosomes 1 que vous avez reçu de votre père ou de votre mère, mais vous allez les mélanger, ces chromosomes, pour créer un nouveau chromosome.
Ouais.
Qui n'a jamais existé avant, parce que c'est une nouvelle combinaison. C'est ça, la recombinaison méiotique, qui fait partie du titre de notre équipe.
Ouais.
Et donc ça, ce mécanisme-là a lieu lors de la méiose. Donc deux choses, les chromosomes se reconnaissent, échangent des petits bouts, puis se distribuent.
Donc ça se divise.
Ça se divise même deux fois de suite.
Ouais.
Pour réduire le nombre de chromosomes. C'est même l'origine du mot méiose. Méiose, ça veut dire réduction.
Ouais.
Donc on réduit le nombre de chromosomes pour garder ce nombre de chromosomes stable, pour contrecarrer en fait l'effet de la fécondation, qui est la fusion de gamètes, qui ont chacun une copie de chromosome. Et donc on crée un nouvel embryon qui a deux copies de chaque chromosome, et le cycle continue de génération en génération.
Alors, sauf que là, vous nous parlez de l'humain, et moi j'apprends que vous travaillez plutôt dans le domaine végétal.
J'ai commencé par l'humain pour illustrer, mais clairement, ce mécanisme-là est universel chez tout ce qu'on appelle les eucaryotes, donc les plantes, les champignons, les animaux, tout le monde se reproduit par méiose. Les dinosaures qu'on évoquait tout à l'heure se reproduisaient grâce à la méiose, clairement. Et donc on peut étudier la méiose soit en regardant, en utilisant des souris ou des plantes, c'est presque indifférent, on va décortiquer les mécanismes qui sont conservés entre ces différents organismes grâce aux intérêts d'un organisme modèle ou d'un autre.
Alors Mathieu nous dit par mail, votre sujet m'évoque de vagues souvenirs de terminal, oui on en parlait, dans lesquels la mitose était liée à la méiose. Pourquoi n'évoquez-vous pas la première chose, effectivement, la mitose?
Alors c'est l'autre type de division cellulaire, il y a deux types grands, la méiose et la mitose. Alors la mitose, cette fois-ci, c'est une reproduction à l'identique. On part d'une cellule et on fait deux cellules parfaitement identiques à la première. Et cette mitose, c'est celle qui permet le développement de l'embryon. On part d'une cellule et on fait beaucoup de cellules qui vont créer l'individu. C'est vrai aussi chez les plantes, c'est vrai chez les animaux. Et c'est les divisions qui permettent le renouvellement des organes, par exemple. Donc on crée en continu de nouvelles cellules, mais qui ont le même patrimoine génétique que la cellule d'origine. C'est là que ça diffère avec la méiose, où on mélange les chromosomes, on divise par deux le nombre de chromosomes pour créer une nouvelle cellule complètement unique, qui sera la moitié du patrimoine génétique du descendant.
Marie-Hélène Verlac, est-ce que c'est justement cette idée de symétrie, d'asymétrie dont vous nous parliez tout à l'heure, entre la méiose et la mitose?
Oui, parce que, en fait, bon, c'est... La mitose, effectivement, comme disait Raphaël, au niveau, quand une cellule mère se divise, elle se multiplie en fait, donc elle va donner deux cellules filles. Et chacune des cellules filles sera identique au niveau chromosomique. En méiose, quand une cellule mère va se diviser, elle va donner des cellules filles qui sont différentes de la cellule mère, d'un point de vue génétique. Mais aussi, et ça c'est spécifique aux ovocytes, les divisions vont être asymétriques par la taille en fait du cytoplasme qui va être échangé. C'est-à-dire que l'ovocyte va garder toutes les réserves d'origine maternelle qu'il avait accumulées pendant toute sa vie dans les ovaires.
Ouais. C'est quoi? C'est une sorte de mémoire au fond? On pourrait dire un petit d'une certaine peu manière, des choses comme ça.
D'une certaine manière.
Ou patrimoine en tout cas.
C'est un patrimoine plutôt qu'une mémoire. C'est un patrimoine qui va lui être absolument indispensable pour ensuite, après fécondation, redonner un embryon.
Ouais. Et donc cette asymétrie, c'est le déséquilibre essentiel? On pourrait aussi un peu dire les choses comme ça?
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'effectivement, dans tous les organismes, dans tout effet de chez les plantes, mais aussi chez les vers, les drosophiles, on a cette asymétrie en fait qui permet à l'ovocyte de garder les réserves, de rester en fait très très gros, une cellule énorme. Les ovocytes sont des cellules énormes par rapport à la plupart des cellules somatiques, et ces réserves, ces divisions asymétriques par la taille des cellules filles vont permettre justement de garder les réserves. Et c'est indispensable, par exemple pour des organismes comme la grenouille, qui va pondre des œufs dans le milieu extérieur, et ensuite, après fécondation, l'embryon va pas tout de suite pouvoir se nourrir. Donc ça, c'est toutes les réserves qui permettront de soutenir le développement embryonnaire précoce.
Raphaël Mercier, donc ce prix que vous avez reçu le 13 décembre dernier, c'était des mains du généticien Axel Kahn, qui a fait un petit discours pour présenter vos travaux, et je vous propose d'en écouter un court extrait.
Maintenant, je vais parler plus particulièrement de la recherche de Raphaël Mercier. Il montre que, effectivement, la division réductionnelle, c'est une fin de cycle, en l'occurrence une fin de cycle cellulaire. Mais cette fin de cycle cellulaire est en quelque sorte fêtée comme une sorte d'épiphanie. Par une sorte de ballet tout à fait extraordinaire, des chiasmas amoureux, une étreinte presque charnelle et troublante, au terme de laquelle de nouveaux possibles, de nouvelles émergences se préparent. Et par conséquent, Raphaël Mercier nous convainc que la division réductionnelle, le chaos de l'étreinte, en fait, sont générateurs d'avenir amélioré possiblement.
Voilà, il faut le faire quand même, en faire de la division réductionnelle une sorte de danse amoureuse très sensuelle. Axel Kahn est quand même très très fort. De nouveaux possibles, ça c'est intéressant dans ce qu'il vient de dire, justement. C'est ce que vous nous décriviez aussi tout à l'heure, Raphaël Mercier.
Oui,
c'est cette loterie, ce hasard.
Exactement, c'est cette loterie, ce mélange des chromosomes qui crée une nouvelle combinaison génétique qui est complètement originale, qui n'a pas eu lieu avant, donc qui fait que chaque frère et sœur ont un patrimoine génétique différent les uns des autres.
Mais même chez les jumeaux alors?
Alors sauf chez les vrais jumeaux, parce que les vrais jumeaux sont issu d'un même événement de méiose.
D'accord.
Si on veut aller dans ce détail, il y a eu fécondation et après, donc fécondation, donc issue de deux méioses chez le père et la mère, et cet embryon, cette cellule après fécondation, crée deux embryons parfaitement identiques. Ouais. Donc c'est le contre-exemple où effectivement on a le même patrimoine génétique, mais parce qu'en fait ils sont issus de la même méiose, ou des deux mêmes méioses, c'est du père et c'est de la mère.
Aucune distinction, aucune, Marie-Hélène Verlac, dans ce patrimoine génétique, des vrais jumeaux alors
Non, il n'y a pas de distinction, puisque les vrais jumeaux viennent en fait du même embryon. Et justement, comme dans les embryons, les premières divisions embryonnaires sont des divisions symétriques, le matériel génétique va être partagé de manière équivalente entre les deux cellules filles, comme lors d'une mitose classique, c'est par opposition à la méiose. Et ce qui se passe dans les vrais jumeaux, c'est que chaque, ce qu'on appelle des blastomères en fait,
Qu'est-ce que c'est, gros mot
Le gros mot, c'est des cellules de l'embryon, en fait, les premières cellules de l'embryon. Et chaque blastomère va pouvoir... il va y avoir, par un accident un peu, on va dire, lié au développement précoce, chaque blastomère va pouvoir redonner un nouvel individu. Et donc chaque cellule, elles sont identiques. Les deux cellules sont identiques, donc ils ont le même patrimoine génétique.
Allez, on va se retrouver dans un instant. Il y a beaucoup de questions pour vous, d'auditeurs curieux, d'en savoir plus sur la méiose, la mitose aussi d'ailleurs, hein, tant qu'on y est, profitez-en. C'est La Tête au Carré et c'est sur franceinter.fr. Retiens mon désir, c'était Cléa Vincent sur France Inter.
La Tête au Carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Raphaël Mercier et Marie-Hélène Verlac pour nous parler en ce 3 janvier de la méiose, pour comprendre cette étape cruciale de la reproduction, avec vos messages sur le site de La Tête au Carré. Laura demande, tiens, puisqu'on parlait des hommes et des femmes tout à l'heure, s'il y a une différence dans le mécanisme de la méiose entre les deux sexes, et si oui, d'où vient cette différence ? Raphaël Mercier pour lui répondre.
Bon, globalement, c'est assez similaire. Les mécanismes de départ de la méiose sont les mêmes chez l'homme et la femme. Par contre, ils ne se déroulent pas au même moment. Chez l'homme, la méiose se déroule en continu. Donc on produit la méiose pour faire des spermatozoïdes en continu au cours de notre vie. En revanche, les femmes, ah, tu me compléteras Marie-Hélène si j'ai des bêtises, chez les femmes, la méiose a lieu en une salve. Les premières divisions de méiose ont lieu en une salve pendant l'embryogenèse de la mère. Oui. Donc en fait, vos chromosomes d'origine maternelle ont été créés dans le ventre de votre grand-mère.
Oui. Ah ça, c'est incroyable. Et c'est le même mécanisme pour tout le monde alors, hein, Marie-Hélène Verlac.
Ah bah oui, bien sûr. Ouais.
Alors cette différence homme-femme, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, ce que je voulais dire c'est que après chez les hommes, effectivement la méiose se fait en continu, mais ça démarre quand même au moment de la puberté.
Voilà. Ouais. Et ensuite tout au long de la vie?
Et bah, les hommes, oui, produisent des spermatozoïdes.
Ça continue de cette façon-là. Richard demande si la méiose peut être à l'origine de certaines maladies, et dans ce cas-là, d'où vient le problème?
Oui, alors en effet, ça a été découvert relativement récemment, je dirais. On s'est rendu compte que la méiose faisait beaucoup d'erreurs. Il y a énormément d'erreurs, des erreurs numériques, donc en nombre de chromosomes ségrégés, mais aussi des erreurs structurales. Il peut y avoir des délétions chromosomiques qui peuvent être générées pendant la méiose.
Et ces erreurs, elles sont facilement corrigées par la biologie elle-même, ou au contraire, elles engendrent systématiquement des pathologies et des dysfonctionnements?
Alors, les erreurs numériques, vous les connaissez, beaucoup de gens les connaissent, notamment les trisomies, les trisomies comme la trisomie 21, elles ne pourront pas être corrigées puisque toutes les cellules de l'individu auront un chromosome supplémentaire, le chromosome 21 en plus. Et ce sont les trisomies. Il y a plusieurs trisomies viables chez l'homme, donc la trisomie 21, mais il y a aussi la trisomie 13 et la trisomie 18. Et c'est des syndromes très lourds en fait. Elles sont viables, mais les enfants vont, notamment pour la trisomie 18, je crois qu'ils ne peuvent pas passer l'âge de 1 an. Et on sait que ces erreurs viennent de la méiose. Et on sait notamment pour les trisomies que l'âge de la mère a une énorme influence. C'est-à-dire que quand on regarde le pourcentage, la courbe, les cinétiques en fait, d'accumulation des trisomies en fonction de l'âge maternel, les courbes sont vraiment assez choquantes, puisqu'on a des courbes qui augmentent de façon exponentielle à partir de 35 ans.
Oui. Donc plus la femme vieillit, avance en âge, voilà, plus les risques de dysfonctionnement autour de la méiose sont grands. D'autres pathologies liées justement à des dysfonctionnements?
Il peut y avoir des avortements spontanés, effectivement, il peut y avoir d'autres maladies qui peuvent apparaître.
Ouais. Un dysfonctionnement complet de la méiose mène à une stérilité. Pas de méiose, pas de gamètes, pas de fertilité.
À quoi est dû le problème, demande Richard? Est-ce dû à des personnes qui sont plus prédisposées que d'autres? Est-ce qu'on a une explication justement à cette loterie un petit peu?
Je dirais comme la prédisposition, ça peut être effectivement l'influence de l'âge maternel. Ça, il est clair que la grande différence entre les hommes et les femmes, je dirais, c'est justement le moment de la méiose, le moment où les ovogonies, en fait, les cellules qui vont rentrer en méiose, sont créées. Chez les femmes, donc elles vont être créées. Et il y a un stock qui est créé, un pool qui est créé pendant l'embryogenèse, donc dans le fœtus, et c'est ce pool qui va rester pendant toute la vie de la femme, qui est réutilisé au moment de la puberté de manière cyclique, sous l'influence hormonale lors de l'ovulation. Et donc, ces cellules, elles ont été créées et elles vont durer pendant des années et des années avant d'être utilisées. Et donc, c'est ça la grande différence, c'est finalement l'âge des gamètes qui est très différent entre l'homme et la femme.
On va écouter la voix de François Jacob, prix Nobel de médecine en 1965 et qui, en 1971, s'exprimait autour de l'hérédité. C'est encore un autre cours qui continue sur la méiose.
Je ne peux pas vous dire combien de temps vivra le code génétique, par quoi sera-t-il remplacé. Ce que je peux dire, c'est que c'est aujourd'hui la représentation que nous avons de l'hérédité, à savoir que l'hérédité est un programme qui est fixé qui est écrit dans les chromosomes dans ce code de 4 lettres, un peu comme par un code Morse, qui est inscrit dans les chromosomes de l'œuf, que l'œuf reçoit et du père et de la mère, et c'est ce programme écrit dans les chromosomes qui va déterminer le devenir du futur organisme, son développement, les propriétés de ce que sera l'organisme adulte. Ceci, une fois de plus, c'est la représentation d'aujourd'hui. Ce qu'il en adviendra, je serais très content de le savoir, mais je ne le sais pas, bien sûr.
Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui, justement, Raphaël Mercier, sur ces questions que posait là à l'instant François Jacob?
Moi, je crois qu'on en est... Tout ce qu'il disait est parfaitement juste. On n'a pas franchement changé de paradigme.
On pourrait reprendre les mêmes termes.
On pourrait reprendre les mêmes termes.
Aujourd'hui, en 2016, plus de 40 ans plus tard, sur donc cette histoire d'héritage génétique. Hein, c'était une bonne description, en tout cas, de l'hérédité que nous proposait François Jacob. Alors, Raphaël Mercier, vous travaillez sur une plante en particulier pour étudier les gènes impliqués dans la méiose. Alors, quelle est cette plante? Pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse autant?
Alors, cette plante, c'est un organisme modèle. C'est quoi un organisme modèle? C'est comme la souris, c'est le même principe. Si on prend une espèce qui est pratique à travailler.
Ouais.
Donc, en l'occurrence, là, les généticiens végétaux ont utilisé une plante qui s'appelle Arabidopsis thaliana.
Ouais,
on l'appelle parfois l'arabette des dames. Elle est très très commune. Vous avez sûrement déjà vu au printemps et à l'automne sur le bord de vos jardins.
Elle ressemble
ou dans
à quoi?
La route. Elle ressemble à c'est une crucifère. Donc c'est une petite plante qui fait 30 cm de haut.
D'accord.
Avec des petites fleurs blanches à 4 pétales. Et
d'accord.
Des fruits qui ressemblent à des haricots verts, si vous voulez.
Mm-hmm.
Voilà. C'est pour ceux qui savent à quoi ressemble un colza, c'est un colza en miniature avec des fleurs blanches.
D'accord.
Et cette plante a été choisie parce que justement elle est petite, elle pousse très vite, elle est très peu gourmande, fait beaucoup de descendants. Ça c'est intéressant.
Ça c'est bien, ça va vite. Hein.
Des dizaines de milliers de descendants.
Vous êtes impatient, hein, donc c'est pour ça.
Voilà, ouais. Bien sûr, en recherche on veut avancer le plus vite possible.
Ouais,
et
ouais.
Le temps de génération de l'espèce qu'on choisit est bien sûr un critère important. Et donc c'est une espèce qui a été choisie par la communauté des généticiens, donc il y a des dizaines de milliers d'équipes qui travaillent sur cette plante dans le monde.
Donc plante modèle.
Plante modèle, ouais. Voilà, donc le même principe que la souris ou le zébrafiche, dont vous parliez il y a quelques jours.
Le zébrafiche, ouais, c'est vrai.
Vous en parliez. Donc c'est, ouais. C'est le même principe, on prend un organisme qu'on choisit pour sa capacité pour mener des expériences relativement facilement pour répondre à des questions biologiques.
Ouais, mais vous cherchez quoi alors exactement autour de cette plante modèle là? Est-ce qu'on peut extrapoler jusqu'où?
Alors, la plupart, vu que c'est un mécanisme qui a été en fait créé avant que les champignons, les plantes et les animaux divergent les uns des autres, c'était chez l'ancêtre de tous ces deux organismes que la méiose est apparue. Donc la plupart des mécanismes sont en fait relativement communs. Donc moi, ce qu'on fait dans mon équipe, c'est trouver les mécanismes, comment ça fonctionne, comment ça marche cette mécanique là, ce mécano de la méiose. Et donc pour ça, on détermine, on isole les gènes qui sont importants pour que la méiose se passe bien.
Ouais.
Et Arabidopsis, c'est un très bon modèle pour ça, pour identifier des gènes.
Et justement, c'est ce que vous avez fait. Vous avez caractérisé des gènes.
C'est ce qu'on fait, en fait.
Une soixantaine.
Voilà, avec l'ensemble du groupe Méiose de l'INRA de Versailles, on a caractérisé une grosse soixantaine de gènes impliqués et essentiels au bon déroulement de la méiose.
Mm-hmm.
En fait, c'est un jeu de logique. On enlève un gène, alors pas tout à fait au hasard, on essaie de réfléchir pour être malin, pour enlever le bon gène. On enlève un gène et on regarde les conséquences sur le déroulement de la méiose. Et en fonction de ça, on apprend à la fois à quoi sert ce gène, qu'est-ce qui marche plus,
ouais.
Et on apprend aussi comment fonctionne le mécanisme.
Ah oui, donc vous créez des plantes mutantes en fait.
On crée des plantes mutantes, exactement.
Ouais.
C'est le terme technique d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Des plantes mutantes qui ont enlevé un gène, parfois deux, parfois trois, et on regarde les combinaisons, les conséquences de cette combinaison d'extinction de gènes.
Ouais. Et ça donne des choses étranges parfois.
Alors souvent, ce que ça donne, c'est des plantes stériles. On disait tout à l'heure, si la méiose se passe pas bien, et ben les plantes deviennent stériles. C'est d'ailleurs un de nos critères pour repérer des plantes qui ont un problème de méiose. Une plante stérile, c'est peut-être une plante qui a un problème de méiose.
Ouais. Mais depuis le temps que vous l'étudiez, alors ce mécanisme de la méiose, vous vous posez encore des questions à ce sujet? Il y a encore plein de mystères dans ce domaine.
Il y a encore plein de mystères. Alors, je vais oser aller en chercher un qui est un peu pointu, mais
allez-y,
j'y vais.
On vous suit.
C'est vraiment fascinant parce que c'est un mécanisme qui a été décrit par les tout premiers généticiens dans les années 1905 entre l'équipe de Morgan, pour ceux qui connaissent les Santi-Morgan, qu'on fait un peu de génétique, et qu'on trouvait que les événements de recombinaison dont je parlais tout à l'heure, ces échanges entre les chromosomes, eh ben ils sont pas distribués indépendamment les uns des autres. Quand il y en a un quelque part dans un chromosome, le suivant a tendance à être loin sur le même chromosome. Donc quelque part, ils se parlent les uns les autres, ces événements de recombinaison. Donc il y a un message d'une nature inconnue, qui se propage le long du chromosome et qui dit, là, il n'y aura pas un autre échange, il n'y aura pas un autre crossing over. Et ça, ce message, ce mécanisme, on n'a aucune idée aujourd'hui comment ça fonctionne. Donc c'est un des mystères, c'est un mystère qui a plus d'un siècle maintenant, et voilà un mystère qu'on a bien résoudre par nos approches de généticiens.
Tout ça est très étrange, Raphaël Mercier, vous faites des drôles de trucs dans vos laboratoires. Jean-Paul demande, est-ce qu'il est vrai que certaines plantes, les gamètes, produisent de nouveaux individus sans qu'il n'y ait eu reproduction sexuée, justement?
C'est vrai, c'est vrai. Alors ça s'appelle l'apomixie chez les plantes, c'est l'équivalent de la parthénogenèse chez les animaux, donc c'est un mode de reproduction. L'apomixie chez les plantes, c'est un mode de reproduction de graines identiques à la plante mère. Donc c'est une dérivation du système de reproduction sexuée qui donne normalement des graines pour créer des individus identiques cette fois-ci. Et donc, encore un nouveau mystère, la méiose chez les espèces, il y en a à peu près 400 décrites, le pissenlit notamment par exemple, certaines espèces de pissenlit. La méiose a été modifiée par l'évolution pour ne plus mélanger les chromosomes et créer des individus identiques à la plante mère. Et on ne sait pas comment ça marche aujourd'hui. Ça, c'est un des mystères que des équipes dans le monde essayent de résoudre. Qu'est-ce qui a été modifié dans ces plantes pour que la méiose ne fasse plus son rôle habituel de mélange d'informations génétiques?
Et Marie-Hélène Verlac, chez les animaux alors? Parce que là, on est chez les plantes. Il y a aussi ce type de phénomène identique?
Oui, tout à fait. Il y a aussi des développements, ce qu'on appelle, ce que se disait Raphaël, parthénogénétique. C'est-à-dire qu'on produit un ovule qui ne sera pas fécondé et qui donnera naissance à des individus.
Chez quels animaux, par exemple, on peut l'observer?
Chez certains lézards, chez les varans.
Les gros aussi... lézards, là. Alors,
oui. Ouais. Alors, ça va être souvent dans des conditions assez particulières. Que les animaux vont se développer par parthénogénèse.
Ouais.
Et tous les animaux ne sont pas capables de faire ça, c'est les ça. Mammifères ne peuvent
oui,
pas.
Oui, c'est ça, ça n'existe voilà. pas chez les mammifères,
non, ça n'existe
en l'occurrence.
Pas chez les mammifères.
Allez, restez avec nous sur le chemin de la méiose, c'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré.
Sept cents millions de Chinois, et moi, avec Marie, mon petit schéma. Mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 3 ou 400 millions de noirs. Et moi. Qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 millions de soviétiques. Et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 900 millions de crèvent la faim, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 millions de Sud-Américains. Et moi. Je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de Vietnamiens. Et moi. Dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 milliards de petits martiens. Et moi. Comme un con de parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie.
Et Jacques Dutronc sur France Inter dans notre Tête au Carré consacrée donc à la méiose aujourd'hui avec Raphaël Mercier, laurier défi scientifique 2016 de l'INRAE. Nous sommes bien en 2017 effectivement, je n'ai pas arrêté de dire 2016 tout à l'heure. Et puis Marie-Hélène Verlac, biologiste du développement. Mais tiens justement Marie-Hélène Verlac, je pense que la voix de celle que nous allons entendre va vous faire plaisir. C'est une très grande biologiste du développement, elle s'appelle Nicole Ledouarin et on va l'écouter parce qu'elle aussi a des choses à nous dire.
Et c'est la conjugaison de ce qui vient du père et de ce qui vient de la mère pour former cette cellule unique et qui sera cet ovocyte.
Oui, mais dans chacun des gamètes, il y aura un extraordinaire mélange de gènes qui viennent des ancêtres. C'est-à-dire que dans le gamète de la mère, il y aura des gènes qui viennent de son père, des gènes qui viennent de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère, et peut-être même et aussi de gens beaucoup plus anciens. Parce que au moment de la gamétogénèse, la formation des gamètes, il y a des fragments de chromosomes qui sont échangés entre les deux brins du même chromosome, l'un allant dans un gamète, l'autre allant dans un autre gamète. Il y a ce qu'on appelle un brassage génétique, là, génique qui se fait d'une manière qu'on ne peut pas prévoir. Mmh. Et si on considère que c'est le hasard complet qui fait que c'est un certain spermatozoïde qui va retrouver un certain ovule, on se rend compte qu'il est impossible, virtuellement impossible, qu'il y ait deux individus venant des mêmes parents qui soient identiques.
Et nos jumeaux, alors, qu'est-ce qu'on en fait, Marie-Hélène Verlac?
Ben, les jumeaux. Si, non, elle a oublié le cas des jumeaux.
Ah, quand même, hein, on est d'accord. Ouais. Oui. Donc, c'est toujours ce jeu de loterie hein, et de hasard qui joue. Et, parce que Nicole Dorin reprenait les termes, d'ailleurs, au micro de Stéphane Delisgeorges hein, sur France Culture, pour nous expliquer déjà ce que nous disait tout à l'heure François Jacob. C'est pour que ça rentre bien dans nos esprits. Mais c'est vraiment ce mécanisme universel là, qui est décrit. Alors, vous, sur la souris, qu'est-ce que vous cherchez à savoir autour de ça?
Ben, Raphaël, lui, il s'intéresse vraiment à comment les chromosomes maternels, d'origine maternelle et paternelle, vont recombiner. Et donc créer des nouveaux chromosomes, d'une certaine manière. Ouais. Donc, pour cela, il faut d'abord les apparier, donc les regrouper, pour qu'ils puissent être proches et qu'ils puissent justement recombiner entre eux. Et c'est échanger des brins de chromosomes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. C'est comment on les sépare. Donc après les avoir,
c'est l'étape
la
suivante,
fameuse danse d'Axel Kahn, là, des chromosomes, la danse amoureuse, et ben, il faut séparer les amoureux. Et donc c'est vraiment ça qu'on étudie, c'est le moment de la séparation. Comment on les sépare? Et c'est à ce moment-là où justement des erreurs peuvent apparaître.
Ouais. Alors justement, c'est quoi? C'est de la belle recherche fondamentale ou ça peut aussi avoir des applications? Alors dans vos deux domaines, vous allez nous le dire, Marie-Hélène Verlac.
Eh ben, je pense que ce que je fais, c'est vraiment de la recherche fondamentale.
Comprendre le mécanisme.
Comprendre le mécanisme, utiliser la souris et notamment la génétique de la souris et puis toute l'imagerie, suivre les événements en direct, filmer les événements et pour les comprendre, avoir l'histoire des événements. Mais c'est évidemment avec des applications dans tout ce qui concerne les mécanismes de reproduction, tous les problèmes de reproduction et on parlait tout à l'heure des erreurs et c'est vraiment comprendre l'origine des erreurs. En comprenant comment l'ovocyte se divise, on arrive à comprendre l'origine des erreurs. En fait,
ouais. Raphaël, merci. Alors vous, du côté des plantes, pareil, à quoi ça sert au bout du compte tiens, de comprendre ces mécanismes?
Alors, de la même façon, ça sert d'abord à comprendre. C'est important de comprendre. La recherche fondamentale, c'est vraiment le cœur de la recherche. Et c'est bien en faisant de la recherche fondamentale qu'on ferait des vraies découvertes de rupture. Mais évidemment, derrière, il y a un travail en aval de la recherche fondamentale qui est de transformer les découvertes en innovation. Et ça, c'est vrai notamment dans la suite de nos travaux, pour faire de l'innovation en création de nouvelles variétés de plantes.
Et pourquoi alors? Parce qu'on en a besoin tout simplement pour
parce
répondre
qu'on
a à une
besoin,
demande
parce qu'on a besoin de répondre aux besoins du consommateur, parce qu'on a besoin de créer de nouvelles plantes.
De la diversité? On a besoin de créer de la diversité?
On a créé la diversité pour répondre aux nouveaux pathogènes, pour répondre aux nouvelles conditions climatiques, pour produire plus proprement. Voilà, on a besoin de créer de nouvelles variétés et de progresser dans les variétés qu'on cultive. Et la création de nouvelles variétés, ça repose sur quoi? Évidemment, sur la méiose.
Ben oui, bien sûr, puisque vous êtes là pour ça.
Pour créer une nouvelle variété, donc voilà.
Isabelle Parmel nous demande, une personne de mon entourage a le chromosome 9 incomplet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi c'est dû, expliquer les numéros des chromosomes? Alors, en gros, ça correspond à quoi, Marie-Hélène Verlac?
Alors, je crois que les numéros des chromosomes, c'est simplement lié à la taille. Les chromosomes, ils ont été classés par leur taille. Et une délétion, c'est justement au moment où ils se séparent, eh ben, il peut y avoir des cassures, ils peuvent casser. Les forces mises en jeu pendant la séparation des chromosomes, notamment les forces de cet appareil qui permet de les séparer, qui est le fuseau de division, va pouvoir casser les chromosomes. Surtout s'il y a eu des fragilités lors de la recombinaison sur quoi travaille Raphaël.
Raphaël Mercier, complément de
réponse. Oui, la méiose, c'est une étape dangereuse pour l'intégrité du génome, parce que cette recombinaison, c'est en fait un coupé-rabouté des chromosomes.
Ouais.
Donc on coupe les chromosomes et on les raboute pour créer, on les recolle ensemble pour créer un nouveau chromosome intact. Mais couper, on coupe l'ADN, c'est dangereux si on les répare mal. Donc là, il y a tout un mécanisme de réparation de ces cassures de l'ADN qui, si elles se déroulent mal, peut créer des délétions, des inversions, un changement du nombre ou de la structure des chromosomes.
On parle beaucoup de la technique CRISPR-Cas9 en ce moment, justement, qui consiste à couper l'ADN. C'est un petit peu ce que vous décrivez
à
l'instant.
C'est un peu ça. Alors, CRISPR-Cas9, c'est une protéine qui a été identifiée chez les bactéries qui est capable de couper l'ADN. Et ben, en méiose, alors encore une fois, là, c'est un gène qui code pour une protéine qui s'appelle SPONSE. Et SPONSE, c'est universellement la protéine qui va couper l'ADN. Voilà, après CRISPR-Cas9, SPO11 pour sporulation 11. SPO11, tout le monde connaît.
C'est comme CRISPR-Cas9, vous voyez, ce genre de choses imprononçables.
Cette protéine, s'il y en a une qu'il faut connaître dans le monde de la méiose, c'est celle-là.
C'est ça, il faut s'y habituer parce qu'elles sont importantes. Hélène demande, la séparation des chromosomes lors de la méiose se fait-elle aléatoirement ou certains chromosomes ont-ils tendance à se rapprocher et ou à se repousser?
A priori, c'est aléatoire, la séparation des chromosomes. Jusqu'à présent, on n'a pas montré qu'il y avait un choix, notamment dans l'ovocyte, comme finalement l'ovocyte va être la seule cellule qui va rester des produits des deux divisions méiotiques. A priori, il n'y a pas de biais.
Donc toujours ce hasard,
qui joue.
Alzaman, toujours sur franceinter.fr, nous dit ceci. Si la méiose des gamètes de la femme se déroule dans le ventre de la grand-mère, en quoi l'âge de la mère joue-t-il sur les erreurs lors de la méiose? J'espère qu'on a tous suivi la question. Raphaël Mercier, pour répondre ou...
Vas-y Raphaël.
Allez Raphaël Mercier.
En fait, la méiose, tu compléteras, moi, je vais faire le début, tu feras la fin.
D'accord.
En fait, le début de la méiose, la recombinaison, ça se passe dans le ventre de la grand-mère. Donc les premières phases de méiose où les chromosomes se reconnaissent et se mélangent. Et puis après, la méiose s'arrête à un certain stade. Et je vais laisser Marie-Hélène continuer.
Ah, pourquoi elle s'arrête alors? Elle est en pause
hein? Exactement, elle est en pause. C'est aussi une des choses qui est très intéressant à étudier sur la méiose, c'est qu'il y a énormément de moments d'arrêt. Et notamment chez la femme, comme je vous le disais, la méiose démarre dans le fœtus, donc dans l'embryon, et puis elle va s'arrêter jusqu'à la puberté où elle va reprendre. Et donc, les ovocytes seront nés dans le fœtus et en fait ne seront utilisés que entre 15 ans, 45 ans, disons, c'est un peu jeune.
Ah oui, donc c'est une longue pause.
Oui, c'est
extrêmement longue.
C'est une longue pause. Ce sont les mêmes cellules qui vont rester et qui vont attendre, qui sont comme des sortes de belles au bois dormant, qui attendent le réveil hormonal pour être réutilisées.
Eh bien, on va terminer sur cette très belle image. Alors, merci beaucoup. Marie-Hélène Verlac et puis donc Raphaël Mercier, laurier défi scientifique 2016 de l'INRA. Bravo à vous. Et il y a encore plein de choses à découvrir. Hein. Les mystères de la méiose vont nourrir vos travaux et ceux de votre équipe encore un certain temps, hein, visiblement.
Probablement, oui.
Et merci infiniment d'être venu nous en parler cet après-midi dans l'émission. Merci. À très bientôt.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Sciences et Médecine du Monde.
Revenons sur le plancher des vaches, Pierre Barthélémy, avec vous, bonjour. Puisque nous allons parler du papier toilette.
Oui Mathieu, peut-être avez-vous séjourné dans un hôtel pendant les vacances de Noël et peut-être avez-vous remarqué que la feuille disponible du rouleau de papier toilette était pliée de manière plus ou moins sophistiquée. On en a vu en forme de cœur, de diamant, d'oiseau. Et on ne doute pas qu'un facétieux inventera un jour une technique pour façonner la tête de Donald Trump. Le pliage est un signe discret envoyé aux clients de l'hôtel pour leur indiquer que le ménage a été fait jusque dans les lieux d'aisance et qu'aucun humain ne s'est assis sur le Saint-Trône depuis.
C'est vrai.
La pratique est très répandue et personne ne s'interroge vraiment à son sujet, personne sauf Richard Jung. Ce chercheur suédois vient d'enrichir la littérature improbablogique en se demandant dans une étude publiée en décembre combien de temps était chaque année consacré au pliage de papier hygiénique dans le monde entier.
Et comment est-ce qu'on répond à une telle question cruciale, Pierre Barthélémy?
Alors, Richard Jung et ses deux acolytes ont récupéré des statistiques planétaires sur le secteur de l'hôtellerie et ils en ont déduit que le ménage était fait chaque jour dans environ 10 millions de chambres. Restait à déterminer la durée de la mise en pli du papier toilette. Pour ce faire, les auteurs de l'étude se sont mis aux travaux manuels et ils ont chronométré à 60 reprises le pliage le plus simple, celui des deux coins du papier, ce qui forme un triangle semblable à la pointe d'une cravate. La durée moyenne est de 5,73 secondes, arrondie à 10 secondes, car il faut prendre en considération le temps mis par les employés des hôtels pour se sécher les mains ou enlever leurs gants de ménage avant de faire de l'origami de PQ.
Alors vite le résultat final,
au bout du compte, on apprend que chaque année, dans les hôtels de la planète Terre, on consacre plus de 10 millions d'heures à plier du papier toilette, soit l'équivalent de plus de 5000 emplois à temps plein.
Ah oui, c'est un vrai boulot, ouais.
Alors on se demande si l'objectif de cette étude n'est pas de justifier des licenciements dans l'hôtellerie, mais Richard Jung n'est pas dans cet état d'esprit. Il souligne dans sa conclusion que les personnes chargées du ménage font un travail éreintant et que leur épargner des tâches sans réel fondement améliorerait, je cite, leur santé et leur bien-être. On respire. On était sur le point d'envisager une mesure de représailles contre ce suppôt du patronat, à savoir dénoncer Richard Jung à l'inspection du travail suédoise pour avoir fait travailler illégalement des enfants. En effet, les deux co-auteurs de l'étude, Hedvig Jung et Harald Jung, âgés de 11 et 13 ans, sont les rejetons du chercheurs, deux enfants qui ont la chance de faire de la science en s'amusant.
Et on retrouve cette chronique dans le supplément Sciences et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu du supplément, Pierre?
Alors cette semaine, on se demande si l'homme a atteint ses limites, que ce soit pour la taille, la longévité, les performances sportives et même l'intelligence. Surtout l'intelligence d'ailleurs. L'humanité plafonne, voire régresse. Pourquoi? La réponse dans le Monde de cet après-midi.
Très intéressant à lire. Et puis Pierre, la tête au carré, qui est partenaire de la collection du Monde, Voyage dans le cosmos, qui explore l'infini, l'univers et de l'infini en petit. qui est l'infiniment grand. Et cette semaine, ce sont les trous noirs qui sont à l'honneur. Du temps de Newton, déjà, les scientifiques imaginaient des étoiles sombres qui exerçaient une attraction puissante que même la lumière ne pouvait y échapper. Et bien, ces derniers temps, grâce aux nouveaux radiotélescopes et aux avancées théoriques de génie telles que Wheeler et Hawking, et bien, les trous noirs sont passés du statut d'hypothèse fantaisiste à celui de réalité fascinante, voire même inquiétante. C'est ce qu'on va découvrir donc dans cet ouvrage, Les trous noirs, à retrouver dès demain. C'est demain que ça sort, le mercredi, donc, la collection Voyage dans le cosmos, proposée par Le Monde, et c'est en partenariat avec La Tête au Carré. Merci beaucoup Pierre, à mardi prochain.